Bienvenue, je suis Aurélie et je suis ravie de t'accueillir dans Post Boost. J'ai débuté ma carrière dans les ressources humaines, c'est mon domaine coup de cœur, celui que je n'ai jamais quitté. J'en connais tous les recoins, les joies, les satisfactions, mais aussi les défis et difficultés. La pression, les exigences des uns et des autres, et toi, au milieu, qui essaye de garder le cap avec le sourire. Alors que tu sois recruteuse, coach emploi ou RH, ce podcast est fait pour toi. J'ai conçu Post Boost dans un seul objectif, vitaminer ta vie de RH. À chaque épisode, je te propose une nouvelle clé pour avancer pas à pas. Le temps d'un épisode, appuie sur pause et profite. Bonne écoute! Bienvenue, tu écoutes l'épisode 2 de Post Boost. J'accueille dans cet épisode ma première invitée de la saison, Gladys Ramette. Gladys est recruteuse et coach emploi et elle va nous expliquer comment elle recrute mieux depuis qu'elle rentre dans la tête de ses candidats. Bonjour Gladys.
Bonjour Aurélie.
Je suis ravie de t'accueillir pour ce premier épisode de Post Boost. Et on a décidé aujourd'hui toutes les deux de parler d'un thème qui nous tient à cœur sur la partie recrutement. Et donc, on va parler aujourd'hui de ta vie de recruteuse et de ta vie de coach emploi. Mais je ne vais pas trop teaser, tu vas nous raconter ça. Et tu vas nous expliquer comment tu recrutes mieux depuis que tu rentres dans la tête de tes candidats. Et ce que je te propose, c'est d'expliquer à nos auditrices un petit peu ton parcours et qui tu es.
D'accord, merci. Écoute, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir invitée à cette première parce que moi, ça me fait très plaisir. C'est aussi une première pour moi. Donc, merci beaucoup pour ta confiance et je suis vraiment ravie d'être là. Je suis Gladys Ramette, donc j'ai une double casquette qui est celle d'être recruteuse et coach emploi. Donc, juste si je fais un petit retour en arrière, donc moi, j'ai commencé à recruter au sein du cabinet de recrutement Réseau. Donc, il y a un cabinet de recrutement qui est spécialisé dans les startups et la tech. Donc, j'ai commencé en 2016 et donc pendant un peu plus de trois ans, j'ai collaboré avec ce cabinet de recrutement donc celui d'Alexandre Vauvent. Je lui ai fait un petit coucou, en passant d'ailleurs. Et donc ensuite, je me suis mise à mon compte et donc j'ai continué donc à recruter moi-même. Et tout en recrutant, je me suis rendu compte que, en fait, il y a beaucoup de candidats que je rencontrais qui avaient vraiment beaucoup de compétences et de motivation et qui, lors de leurs entretiens, étaient parfois un petit peu perdus, parfois n'étaient pas forcément très, très à l'aise pour se mettre en valeur. Et donc, j'avais identifié un besoin à ce moment-là et aussi une appétence personnelle pour le coaching. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, donc, j'ai toujours cette double casquette donc de recruteuse et de coach emploi. Donc j'étais ravie que tu me proposes ce sujet parce qu'effectivement, c'est vraiment… quand je recrute, j'ai toujours le sentiment en tout cas quand j'échange avec des candidats que j'ai cette double mission à la fois de satisfaire les entreprises en recrutant les meilleurs candidats, mais aussi de considérer les candidats avec qui je m'entretiens, que je chasse comme des clients potentiels. Et du coup, j'ai toujours cette double posture-là.
Ok, c'est intéressant. Et voilà. Pourquoi tu as décidé du coup de comprendre les croyances de tes candidats?
Parce qu'en fait, si tu veux… tous les recruteurs, nous, on connaît ça. C'est-à-dire que tu vois, quand tu es en train de recruter, en particulier quand tu es en train de chasser, on a une posture qui est vraiment celle de commerciaux, je trouve. C'est-à-dire qu'on doit vraiment convaincre une personne, en fait, qui est, surtout en particulier quand on les chasse ou si elles sont en poste, il faut vraiment les débaucher, comme je dis. Donc, il faut convaincre des personnes de rejoindre une entreprise. Et donc, c'est en ce sens que ça ressemble à du commercial, je trouve, c'est cette posture-là. Et qui est un petit peu excitante, je trouve, justement pour ça. Il y a toujours un petit challenge à chaque fois, donc c'est quand même un petit combat, donc c'est marrant, je trouve. Et en fait, justement, dans cette dimension-là, en fait, on se retrouve à avoir donc en face de nous des personnes qui, lorsqu'on cherche à les convaincre, ont des objections, des freins, des limites, des croyances. Et j'ai remarqué que, tout simplement, en fait, on peut avoir du fait de ces objections ou de ces freins non exprimés, de la part des candidats, on peut échouer en fait à les recruter. Et du coup, j'ai remarqué que le fait de chercher à comprendre un petit peu mieux ce qu'ils avaient dans la tête, tout simplement, un peu comme une mentaliste, tu vois. Je me la joue un petit peu mentaliste avec mes candidats, tu vois, ça fait peur. C'est-à-dire que maintenant, les candidats qui vont entendre ça vont dire, attends, elle est un petit peu bizarre quand même, Gladys. Mais non, enfin, sérieusement, en tout cas, oui, donc ça me permet d'être plus convaincante. de mieux comprendre ce qu'ils veulent. Et du coup, c'est comme ça que je me suis décidée à interroger un peu plus leurs croyances. Et ce qui me permet aussi de... J'ai l'impression, en tout cas, c'est ce qu'ils me disent les candidats à l'issue des entretiens, de faire un peu tomber le masque aussi pour eux. C'est-à-dire que comme je suis plus dans une posture de compréhension de leurs besoins profonds, au-delà du recrutement, les masques tombent un peu, c'est qu'ils se rendent compte, et je suis sincère, je le fais sans aucune malignité, c'est-à-dire que je le fais vraiment en confiance, j'essaie vraiment de vérifier qu'ils sont, que ce que j'ai à leur proposer, tout simplement, leur correspond vraiment.
Okay.
Donc, voilà pourquoi j'ai décidé de comprendre un peu mieux leurs croyances. Le recrutement, pour moi, aujourd'hui, ce n'est plus uniquement de la sélection pour un poste, mais véritablement du coaching, dans le sens que, selon moi, le recruteur doit être un véritable partenaire pour le candidat et pas seulement pour l'entreprise. Donc, en fait, je voulais faire en sorte que mes candidats deviennent, s'ils en ressentaient le besoin, bien sûr, mes clients au même titre que l'entreprise qui faisait appel à moi. Donc, en fait, moi, j'en ai trouvé en fait trois bénéfices. C'est déjà de fidéliser mon vivier en leur faisant vivre une excellente expérience candidat, parce que bien souvent, ils me disaient en sortant de l'entretien, vraiment, c'est la première fois qu'on me parle comme ça, je me sens vraiment mieux compris et vraiment, je ne me sens pas jugée. Donc, ça me fait plaisir de... Enfin, c'est moins stressant aussi pour moi, c'est ce que me disaient les candidats, ils se sentent moins stressés quand on les interroge un peu plus comme ça en mode conversationnel, on va dire. Le deuxième bénéfice que j'en ai retiré, c'est que cela me permettait de faire de mes candidats des clients potentiels s'ils en exprimaient le besoin. Et enfin, le troisième bénéfice que j'en ai retiré, c'est que ça me permettait aussi d'augmenter mon taux de conversion, parce qu'en me penchant davantage sur les points bloquants, les attentes non exprimées des candidats, à partir du moment où tout était aligné pour eux, je savais qu'ils allaient vraiment aller jusqu'au bout du process, en fait. En tout cas, ça renforçait vraiment les chances qu'ils aillent au bout du process et que tout soit déjà bien aligné dès le départ et qu'il n'y ait pas une déperdition en ligne, on va dire, en cours de process des candidats.
Parce que ça, c'est une réalité aujourd'hui, je crois que partagent beaucoup de recruteuses, c'est la difficulté d'avoir un candidat avec lequel on a fait des entretiens et puis soit il disparaît dans la nature, soit finalement on lui fait une proposition et il n'y va pas. Est-ce que toi, depuis que tu agis différemment et que donc tu essayes de rentrer dans la tête de tes candidats, est-ce que du coup, ce taux de déperdition, tu l'as vu diminuer tout simplement?
Ben oui, effectivement, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. C'est aussi un constat que j'ai fait. Alors, je ne sais pas, j'ai trouvé en particulier après le pendant et après le pendant, c'est un peu normal, mais après le Covid, oui, en effet, j'ai remarqué que les candidats, soit c'est parce qu'ils s'interrogent plus sur le sens de ce qu'on leur propose, du coup, ils ont le temps de réfléchir beaucoup entre deux échanges que l'on a, soit c'est parce qu'ils ont pris une certaine forme de posture que certains recruteurs ont et qui parfois, bon, pour plein de raisons qu'on connaît tous, manque de temps, manque de plein de choses, enfin, je ne sais pas, mais il y a des recruteurs qui ont tendance parfois à ghoster les candidats, et là, les candidats ghostent les recruteurs aussi parfois. Et c'est vrai que moi, j'ai trouvé qu'il y avait parfois une sorte de délitement comme ça de la relation, de disparition dans la nature, on ne sait pas pourquoi, ou dans le triangle des Bermudes, des candidats. Et oui, le fait d'avoir cet échange déjà plus qualitatif, en tout cas dans ma propre pratique avec les candidats, ça faisait que déjà, quand ils souhaitaient partir en cours de route, ils prenaient le temps de me prévenir, ce qui était plutôt sympa, plutôt que j'attende une éventuelle réponse qui ne viendrait jamais. Et deuxièmement, ça me permet de verrouiller, encore que verrouiller, ce n'est pas le bon mot, parce qu'ils ont toujours la liberté de faire ce qu'ils veulent, on est bien d'accord, mais en tout cas, de bien vérifier, de valider plutôt, voilà, de valider dès le début que au moins les ambitions, les objectifs et le sens de la mission qu'on leur propose vont faire écho chez eux et qu'ils ne se sont pas empêchés d'exprimer d'autres aspirations parce qu'ils voulaient rester professionnels et ne pas avoir l'air de dire que ce qu'on leur propose n'est pas génial, quoi, on va dire. Donc, en fait, ça libère la parole aussi du candidat. Et bénéfice secondaire, ça me permet, moi, si j'ai un autre poste qui leur correspond, d'en plus leur proposer quelque chose qui sera plus aligné avec ce qu'ils veulent. Donc, au final, moi, ça me permet de faire plus de connexions entre leurs besoins et ce que je peux leur proposer. Donc, c'est tout bénef parce qu'ils ont exprimé ce qu'ils voulaient vraiment.
Comment tu fais dans ton job de recruteur côté candidat? Tu as peut-être des conseils pour nos auditrices?
Une question, vous voyez, par rapport, par exemple, au télétravail. Souvent, c'est marqué télétravail possible dans les fiches de poste et on dit aux candidats, le télétravail est possible. Donc, jusque-là, ça a l'air extrêmement clair. Mais en réalité, on se rend compte quand on va un peu plus loin que pour certains candidats, ils veulent vraiment du full remote, donc enfin, du télétravail complet. Du coup, ils n'osent pas totalement le dire parce qu'il y a une grande partie des entreprises qui n'ont pas forcément envie de que leurs employés soient complètement ailleurs que chez eux, notamment. Et comme ils n'osent pas l'exprimer, moi, je vais vraiment dans l'interrogation assez, on va dire, poussée, où je dis aux candidats, mais du coup, quand vous me dites que vous êtes partant pour du télétravail, en fait, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Quelles sont vos attentes par rapport à votre organisation personnelle? Qu'est-ce que ça implique? Dans le sens où, si on vous propose, et je vais jusqu'au bout, c'est-à-dire si on vous propose 2 ou 3 jours, est-ce que ça vous convient? Ou est-ce que, en fait, pour vous, le travail idéal, ce serait plutôt être complètement libre de votre emploi du temps tous les jours? Il y en a même des gens qui veulent être digital nomade, ils n'osent pas le dire parce que travaillent depuis Barcelone. Bon, ça va être un petit peu... Pour grand nombre d'entreprises, ça reste encore un peu, surtout en France, en tout cas, ça peut rester tabou, bien que le Covid ait bien démocratisé la pratique. Ça peut rester quand même encore tabou, ce lien de confiance qu'on peut avoir avec les candidats. Est-ce qu'il y a une situation qu'ils ne veulent plus revivre, en fait, qu'ils ont vécu dans leurs précédentes expériences et qu'ils ne veulent plus revivre? Quand je dis ça, ça fait un peu, parfois mes questions peuvent sembler un peu développement personnel par rapport aux candidats, mais en réalité, je leur pose cette question parce que souvent, si ce sont des gens qui ont été, par exemple, micromanagés, ils n'ont surtout pas envie de revivre ça, mais vous imaginez bien qu'ils ne vont pas vous dire comme ça, bille en tête dans l'entretien, bon, moi, je ne veux surtout pas un manager qui me micromanage parce que sinon, la dernière fois, j'ai presque fait un burn-out à cause de ça. Ils ne vont peut-être pas oser le dire. Donc, moi, j'estime que c'est mon rôle de vraiment pousser la question de savoir mais quel type de manager tu veux, dans quelle relation tu t'épanouis le plus avec un manager, quelles sont tes attentes par rapport à ça.
Dans ta pratique, du coup, tu poses des questions qui sont un peu des questions nouvelles ou en tout cas pas habituelles pour un candidat. Et l'idée, c'est d'aller creuser dans leur passé pour comprendre quelles ont été les situations ou les contextes professionnels dans lesquels ça a été difficile, parce que c'est des choses qui ne vont pas vraiment exprimer de manière naturelle parce qu'ils sont dans une position où ils se sentent évalués, jugés, et sans doute ils ont peur que ça donne une mauvaise image d'eux.
Complètement, tout à fait, c'est exactement ça. Du coup, je vais un peu chercher un petit peu loin pour savoir si, par rapport à une situation notamment de management ou de travail en équipe, quelles ont été les situations gâchettes où ils se sont retrouvés en difficulté et où ça les a vraiment heurtés, blessés, ou en tout cas, ils n'étaient vraiment pas dans une sensation de bien-être. Et du coup, pour éviter que déjà que je les envoie dans un poste qui ne leur correspond pas, parce que si c'est à nouveau ça, il vaut mieux éviter en amont, il vaut mieux le savoir pour eux. Parce que mon objectif, c'est quand même que mon client entreprise soit satisfait, mais également le candidat.
Comment tu fais du coup avec les entreprises, pour le coup, pour rentrer dans la tête de l'entreprise, ou en tout cas dans la tête de ton client ?
Rôle aussi, nous, les recruteurs, où je trouve qu'on est assez... on doit être pas mal dans la pédagogie, tout simplement parce qu'en fait, tous les recruteurs vivent ça, c'est-à-dire qu'on a un brief souvent de la part du client. Au début, enfin surtout le premier brief, il est souvent assez fantasmé sur le candidat idéal, les critères auxquels il doit répondre, etc. Et pour deux raisons, parce que déjà, ça peut être des clients qui n'ont pas l'habitude du recrutement, par exemple, et du coup, ils imaginent que le mouton à 8 pattes existe et pillent en tête avec ça. Ou bien, c'est tout simplement parce qu'ils ont déjà recruté des personnes et ça a bien fonctionné pour eux. Du coup, ils imaginent qu'ils vont forcément être encore dans le succès s'ils prennent un clone des collaborateurs existants qu'ils ont déjà. J'essaie de le pousser un petit peu dans ces retranchements. Et d'ailleurs, on voit que tous les recruteurs connaissent ça aussi, c'est qu'au fur et à mesure que la chasse peut s'avérer difficile, le champ des possibles s'ouvre et soudain, les entreprises se rendent compte qu'ils peuvent faire quelques compromis sur certains critères qu'ils estimaient être intangibles. C'est important de bien comprendre les pensées aussi limitantes de certaines entreprises. Et pour prendre un exemple concret, à chaque fois qu'une entreprise me dit « bon, moi, je veux un candidat qui soit… » X ou Y, qui soit comme ci ou comme ça, chaque fois, je leur demande pourquoi. Ils vont me dire, moi, je préfère, par exemple, que ce soit leur... Bon, effectivement, on dit comme ça, c'est discriminant, mais il faut bien savoir que les entreprises disent quand même les choses de manière assez... À l'oral, elles disent les choses de manière assez ouverte aux recruteurs. Donc, elles vont dire, par exemple, moi, je pense que ce serait mieux que ce soit une femme parce que c'est un environnement qui est lié à, je ne sais pas moi, la maternité, quelque chose qui est féminin. Donc, l'entreprise va me dire, moi, je préférais que ce soit une femme parce que je pense que voilà. lorsque je vais leur dire, mais pourquoi en fait vous dites ça, on se rend compte quand ils répondent qu'ils ont beaucoup de présupposés et que soit ils n'ont pas, ils ne savent pas que dans le reste du marché, ça peut se faire autrement. C'est notre rôle aussi de leur dire que c'est possible de faire autrement et qu'ils se privent de très bons candidats en n'ouvrant pas les critères de sélection. Mon astuce, on va dire, pour mieux cibler, mieux répondre aux besoins des entreprises et interroger leurs propres croyances, c'est tout simplement de leur demander pourquoi. Et à force de dire pourquoi, au bout de 5 pourquoi, eh ben on se rend compte qu'à la fin, tout ça, souvent, ce sont des fondements qui sont du genre bah, parce que ça a toujours marché comme ça. Pourquoi ? Bah, parce que je pense que les femmes, par exemple, sont mieux à même de vendre des produits aux femmes. Et donc, on voit qu'il y a plein de croyances comme ça qui habitent aussi les entreprises ou nos clients. Et c'est notre rôle au minimum de les interroger. Et nous, ça nous permet aussi, ça m'est déjà arrivé, de nous interroger aussi sur est-ce qu'on a envie de travailler avec un client. Et ça m'est déjà arrivé de refuser des clients pour ça, qui ont des croyances qui ne sont pas du tout alignées avec les miennes, pour le coup, où vraiment, ça part dans la discrimination, où c'est vraiment des prises de position qui sont vraiment, bah, typiquement, voilà, on ne veut pas recruter de personne qui a plus de 45 ans parce qu'on pense qu'elle est déjà trop fatiguée. Voilà, moi, quand j'entends ça, dans un premier temps, je commence à interroger la croyance. Ensuite, je vais dire, bah, non, pas forcément. Regardez, moi-même, j'ai plus de 45 ans. Je ne suis pas très fatiguée. Enfin, je ne me sens pas très fatiguée. Mais blague à part, après, je peux aussi me donner la liberté de dire non.
Du coup, c'est intéressant parce que ça veut dire que quand toi, tu vas questionner tes entreprises clientes avec cette question du pourquoi, à la fois, ça te permet d'affiner ton analyse de poste, ça te permet de faire sortir et de faire émerger les croyances limitantes qu'ils peuvent avoir et au fur et à mesure, du coup, enlever un certain nombre de critères pour arriver à des critères plus réalistes par rapport au marché. Mais c'est hyper utile pour toi aussi dans ta propre façon de fonctionner, dans ton propre job, pour avoir un peu un curseur qui te permet de dire bah, « Non, finalement, avec ce client, bah, je ne vais pas travailler ». L'opportunité est peut-être très intéressante, le recrutement est bien rémunéré, je pourrais me faire une grosse cop, mais ce n'est pas aligné avec qui je suis, donc je dis non, quoi. C'est ça ?
Complètement, absolument. Et c'est d'autant plus, je dirais même jubilatoire, si on peut dire ça comme ça. Enfin, c'est toujours un peu énervant quand ça se passe comme ça, mais là où je dis que c'est jubilatoire, c'est qu'après, au bout d'un certain temps, quand on a un peu plus d'expérience et quand notre entreprise tout simplement fonctionne mieux, on est encore plus en pouvoir d'affirmer ça. Et ça peut se faire très gentiment d'ailleurs. Mais je trouve que même en se positionnant comme ça, ça rééduque l'entreprise. Parce qu'en fait, en disant, bah, excusez-moi, moi, je ne vais pas travailler dans ces conditions-là parce que je n'ai pas envie de contribuer à cette vision du monde, tout simplement, ben, parfois, il y a des clients qui sont tellement surpris qu'on leur dit ça qu'ils sont peut-être vexés dans un premier temps. Mais je pense que ça les fait réagir aussi. Donc, en fait, on a aussi ce rôle-là, nous, de vraiment faire évoluer les mentalités. Et en ce sens-là, je trouve qu'être à son compte, c'est quand même beaucoup de liberté parce qu'on peut quand même un peu plus choisir ses clients, je suppose, que quand on est dans un cabinet où on n'est pas forcément en phase avec toutes les pratiques, etc. Donc, moi, je trouve ça assez libérateur.
Et puissant, du coup, parce que ça te permet, oui, toi, vraiment d'aller… c'est quelque chose de puissant qui te permet, toi aussi, de faire ton propre job et le construire pour qu'il soit aligné à qui tu es, tes valeurs, ton envie et la pratique que tu as envie de mener en tant que recruteuse.
Absolument.
Alors, quels sont les bénéfices et les limites que tu as pu avoir dans le fait de rentrer dans la tête et de tes candidats et de tes clients ?
Alors, la limite, c'est que ça prend quand même plus de temps. La vérité, c'est qu'en réalité, les candidats, quand on leur dit que vraiment, ils peuvent exprimer leur peur, leur mauvaise expérience, il y en a qui pensent que c'est vraiment un piège. Et je suis obligée de dire plusieurs fois, en fait, non, mais il n'y a pas de piège dans cette question. C'est vraiment, je vous dis ça, et en plus, c'est sincère, pour déterminer si le poste que j'ai à vous proposer va vraiment répondre à vos besoins. Le fait d'être coach emploi, ça fait que vraiment, ce que je dis est vraiment totalement… authentique et vraiment, enfin, c'est vraiment ma conviction personnelle. Donc, tout ça pour dire que ça prend un peu plus de temps. Donc, mes entretiens, par exemple, sont passés de 45 minutes à plutôt 1h, 1h15 facilement. Donc, voilà, en termes de temps passé sur un entretien, ça peut jouer beaucoup du coup à la fin de la journée, parce qu'on en fait quand même comme ça un peu moins. Mais je trouve que les bénéfices sont bien supérieurs parce que du coup, j'ai tissé moi une vraie relation de confiance avec mes candidats qui, derrière, après, sont vraiment beaucoup plus enclins à me rappeler au cours de leur parcours professionnel quand ils sont en mouvement, mobilité. Et puis, donc, ça me permet de les fidéliser. Et puis, surtout, s'il y a moins de risques, là, le bénéfice, c'est quand même qu'il y a quand même moins de risques de départ pendant la période d'essai, puisque comme dès le départ, on a vérifié l'alignement entre les besoins du candidat et l'offre de l'entreprise, comme on a vérifié ça en amont, eh bien, on est plus sûr que, en tout cas, on a un peu plus de garantie que les choses vont bien se passer pendant la période d'essai. Donc, pour nous, comme on sait, comme on est payé, nous, les recruteurs indépendants, une fois que le candidat est effectivement embauché, c'est vrai que, bon, comme généralement, on a une garantie de remplacement, comme vous savez, des candidats quand ils partent en cours de période d'essai, diminuer ce taux de départ, c'est non négligeable au niveau aussi financier. Et en termes de perte de temps, le temps qu'on perd en amont, on peut dire ça comme ça, on le récupère après parce qu'il n'y a pas à rechercher un nouveau candidat lorsque le candidat s'en va, quoi.
C'est un peu les vases communicants du temps. Tu vas avoir la sensation que tu en perds un petit peu au début, mais après, tu t'aperçois dans ta pratique que finalement, tu as moins de taux d'échec à la période d'essai, tu as moins de rotation. Donc, tu gagnes du temps aussi de ce fait-là, d'avoir la certitude que ton candidat va rester. Et puis aussi, du coup, de se dire finalement, si je dois renouveler mon candidat, puisque tu l'as très bien dit, hein, souvent dans le recrutement, quand on est indépendant et même quand on est en cabinet, on a un devoir de réussite. Et si la personne s'en va, il faut recommencer du début. Donc finalement, c'est un gain de temps sur la durée.
Oui, le succès n'est pas une option, comme je dis. Le succès n'est pas une option quand tu es indépendant ou même après en cabinet. Donc,
Merci Gladys, c'était riche et intense comme échange. On va finir par la dernière question que je pose à toutes mes invitées. C'est quoi pour toi une pause boost?
Alors, une pause boost, j'ai deux types de pause boost, on va dire. Il y en a une qui est un peu plus physique que l'autre. Si tu veux, moi, ce que j'adore faire, c'est de la danse, en fait. Donc, de la danse à deux, tout simplement. Donc oui, ça me booste beaucoup parce que quand tu danses, tu vois, tout simplement, comme je dis, tu as le rideau qui tombe, tes soucis, en fait, tu les laisses derrière toi. Tu n'as pas d'autre choix que de suivre la personne qui te guide et d'écouter la musique et tu passes un bon moment et tu es obligé d'être dans l'action, dans le moment présent. Donc, tu ne peux plus commencer à gamberger, à je ne sais quoi. Donc, la danse, oui, moi, ça me rebooste, mais à fond, et physiquement et mentalement, ça me ressource vraiment. Et ma deuxième pause boost, en fait, qui est plus cérébrale cette fois-ci, c'est d'écrire. Moi, j'écris beaucoup le soir et ça me permet de prendre un peu de hauteur par rapport à ce que je fais, de réfléchir à ce que je propose comme valeur aux autres et réfléchir un peu à ma pratique de coach, de recruteuse. Et ça me booste à fond. C'est comme j'ai l'impression de me faire une conversation avec moi-même et j'espère avec les autres quand je fais ça. Donc, ça me booste vraiment d'écrire le soir.
Bon, cool. Merci beaucoup, Gladys.
Je t'en prie. Merci de m'avoir invité. Écoute, je suis très contente de participer à ce podcast parce qu'en fait, nous, les recruteurs et les coachs emploi, on a vraiment effectivement besoin d'être boostés parfois. Et c'est vraiment super sympa cette initiative de regrouper cette communauté de personnes qui est vraiment, qui je trouve, a souvent aussi des problématiques propres. Et c'est super bien d'avoir cette opportunité de parole et de partager des bonnes pratiques. Donc, merci. Merci d'avoir... on en a rêvé, tu l'as fait, Aurélie. Donc, merci.
Merci, Gladys. Comment on fait pour te contacter, te joindre? Dis-nous tout.
Pour me contacter, on peut soit me contacter sur LinkedIn.
Et ton site, c'est Glad for Job avec le chiffre 4.
Oui, c'est ça. C'est
ça. Bon, merci beaucoup, Gladys. À bientôt.
Écoute, à bientôt, Aurélie.
J'espère que cet épisode t'a plu et que tu as fait une super post-boost avec moi. Si tu as aimé, n'hésite pas à en parler autour de toi, c'est le meilleur moyen pour moi de faire connaître ce podcast. Tu peux aussi laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Et si tu ne veux pas louper ta prochaine Pause Boost, abonne-toi sur ta plateforme d'écoute. Pause Boost est disponible partout. À très vite !